En sol majeur, vous propose cette rediffusion.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Revivre au Rwanda, est-ce que c'est revenir à soi? Et puisqu'on y est, faut-il en finir avec le mausolée Rwanda? Et puis enfin, d'où peut naître la résurrection après le génocide des Tutsis? Mille questions dévalent le pays des mille collines dans le roman saisissant de Dominique Sélis, Ainsi pleurent nos hommes, chez Philippe Ray. Saisissant comme peut l'être un corps de vivant qui tombe amoureux dans un contexte post-génocide. Dominique Sélis n'est pas agrégé de philosophie pour rien. Grâce à son écriture, tout en poésie osseuse et fragmentée, on perçoit les yeux de la guerre bien ouverts sur Dieu et sur le sexe. Une naissance au Burundi, un attachement à Merleau-Ponty, New York et Jérusalem, mis Sélis à l'intransigeance des grandes marcheuses. Bonjour et Moira Moutse. Dominique Sélis.
Neza. Bonjour, merci Yasmine Chouaki.
Bienvenue.
Merci.
Et donc sur ce petit chemin vallonné apparemment qui vous mène jusqu'en sol majeur Dominique Sélis, il y a Kamalissa. Présentez-nous ce morceau, Nimuve Munzira.
Alors en quelques mots, Kamalissa qui est une chanteuse donc, qui a été soldate dans l'armée de la libération. Elle célèbre ici un homme qu'elle a beaucoup aimé, qui était aussi un soldat de la libération, un Inkotani comme nous disons. Et moi, j'aime cette chanson pour sa douceur, pour ce chant d'amour qui est associé à ces hommes qui sont partis au front pour libérer les Rwandais de l'oppression génocidaire.
On est en 90, hein ?
Oui, on est dans les années, c'est la période 90-94. Pour moi, c'est important aussi de célébrer ces hommes qui ont fait ça, parce que souvent, je me dis, j'ai la chance de pouvoir vivre au Rwanda grâce à ces jeunes qui sont partis au front. Et donc, c'est mon petit hommage à tous ces hommes-là.
Je m'appelle Révérien Rwangwa. Je suis rescapé du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda qui s'est passé au Rwanda, justement, il y a 25 ans. En avril 1994, j'étais un petit garçon de 15 ans. J'avais 6 frères et sœurs. J'étais avec mes parents, mes grands-parents, mes cousins, mes oncles. En tout, j'étais avec 43 personnes que j'ai vues tuées devant mes yeux. Comme vous pouvez le voir sur mon visage, j'ai des cicatrices, ce sont des coups de machette. Mon œil gauche, c'est une prothèse. Elle a été arrachée à coups de machette aussi. Mon nez a été coupé aussi à machette. J'ai également deux coups de lance dans mes côtes gauches. J'ai aussi un coup de massue à mon épaule gauche qui a été fracassée. J'ai encore une grande cicatrice derrière la tête. Je ne sais pas comment on peut dire ça en français, mais Moro Atinyagwanda, c'était la machette qui est un peu courbée. C'est pour ça qu'en fait, ma cicatrice, elle est comme ça.
Révérien Rurangois, donc auteur de Génocidé, c'est un livre qui a évidemment marqué et qui semble-t-il vous a inspiré, Dominique Sélis, l'écriture en 2012 de Gêneur de survivants.
On ne peut rien vous cacher, décidément. Oui, Révérien a écrit un témoignage qui est accablant, comme tous les témoignages sur le génocide des Tutsis. C'est quelqu'un que j'ai rencontré et dans l'archive que nous venons d'entendre, il rassemble... Je ne sais quel mot trouver, il rassemble sur son corps la particularité de montrer tous les outils qui ont été utilisés durant le génocide des Tutsis. Et en effet, il m'a inspirée parce que dans le premier livre que j'ai écrit, qui n'est pas un roman, je m'intéressais à ce à quoi renvoie une personne qui a un vécu de rescapé. Donc, je ne dis pas tout simplement un rescapé parce que... Un rescapé ne se réduit pas à cette expérience du génocide des Tutsis, bien que, évidemment, ça habite intégralement le corps. Et donc, je me questionnais dans cet ouvrage sur à quoi nous renvoie un rescapé. C'est-à-dire, bien sûr, pour les génocidaires, ça renvoie à ce qu'ils ont commis. Pour les familles de victimes, ça rappelle ce qui a été commis sur les leurs. Être un rescapé, ça dit la déshumanisation. Ça illustre la déshumanisation. Et c'est ça qui m'intéressait.
Alors cette question des survivants qui font tache hein, dans le paysage rwandais, hein, votre titre le dit bien, Gêneur de survivants, c'est une question j'imagine qui a beaucoup évolué depuis 2012, on va en parler. Mais une grosse question, tant pis, je me risque à vous la poser, Dominique Sélis, est-ce que les racines idéologiques de ce génocide, qui n'est pas un massacre interethnique, vous insistez là-dessus, est-ce que ces racines ont complètement disparu ?
Historiquement, le génocide des Tutsis, c'est le résultat d'une catégorisation de la population et ces catégories dites ethniques, comme tout le monde sait, enfin je pense, le terme ethnie n'existe même pas en Kinyarwanda, cette catégorisation de la population est le fruit de la colonisation belge. Alors, est-ce que les racines idéologiques existent toujours ? Je ne pense pas qu'on puisse éradiquer en 28 ans cela. Ce qu'il me semble... qui n'est pas nécessairement vu ni compris de l'extérieur du pays, c'est que, en fait, le génocide est tellement gravissime, est tellement énorme qu'il a tout balayé sur sa route. C'est-à-dire que 28 ans plus tard, nous sommes un nouveau pays, l'an zéro c'est 94, 94, et les racines qui sont une espèce de tango infernal entre colonisation et capitalisme, ces racines-là, je suppose qu'elles sont toujours là. Mais nous, aujourd'hui, au Rwanda, ce qui nous préoccupe, ce n'est pas tant d'ergoter, de travailler sur cette question. On connaît tout ça. L'histoire a documenté ça, mais ce n'est pas en l'état, ce n'est pas la question. On sait, on connaît les tenants et aboutissants. Ce n'est pas le débat actuel de la société rwandaise, me semble-t-il.
C'est quoi le débat actuel ?
Mais c'est vivre. C'est vivre, c'est manger, c'est survivre, c'est restaurer la dignité, c'est aimer, s'aimer, c'est le vivre ensemble, c'est vouloir être ensemble et comment faire le mieux possible. Ce qui s'est passé hier, nous on le sait dans nos corps. Aujourd'hui, c'est vivre.
Comme trousseau de clés.
Car vous pourriez avoir plusieurs clés à votre trousseau, Dominique. Hein, vous avez vécu dans plusieurs coins de la planète, on en reparlera peut-être, mais en tout cas on peut citer le Congo, Kinshasa ou la Belgique. Et vous avez choisi de vivre à nouveau au Rwanda en 2013. Pourquoi en 2013 ?
Parce que les gachacha, la justice traditionnelle, les procès ont été clôturés en 2012 après 10 ans. Donc il y a eu, durant 10 ans, il y a eu ces procès. Et vraiment, il y a eu une détente quand même dans la société rwandaise. Donc la date est liée à ça.
Est-ce qu'on peut préciser tout de suite d'entrée de jeu que vous-même, vous n'êtes pas une survivante de ce génocide ?
Oui, je vous remercie de le dire parce que c'est quelque chose que je tiens toujours à préciser. Je ne suis pas survivante. En 94, j'étais en Belgique et même si le génocide des Tutsis a traversé ma famille paternelle, il n'a pas tout emporté.
Alors, vous dites que votre retour au Rwanda en 2013 date de la fin des Gacacam, mais il est peut-être aussi en lien avec certains mots qui ont été prononcés par le président Paul Kagame.
Oui. Quant à ce qui m'a décidé, puisque c'est une décision importante, c'était quitter la vie que j'avais en Belgique. C'était une vie que j'aimais. Ce qui m'a poussé à rentrer, c'est un ensemble de raisons intimes que je ne suis pas capable d'expliquer, qui m'échappent. Mais il y a assurément que j'ai cru au projet politique proposé par Paul Kagame et ses équipes. Et puis aussi, ça me devenait très difficile de vivre dans mon pays paternel qui recevait, qui accueillait, qui protégeait les présumés génocidaires.
La Belgique, donc.
La Belgique. Mm-hmm. Et alors, le déclencheur, c'est en effet une phrase du président de la République. Il a dit « Personne ne nous est redevable et nous ne sommes redevables de personne ». Et cette idée de responsabilité radicale au sortir d'un génocide qui s'est passé à la télévision en partie, avec une responsabilité accablante de au moins deux États occidentaux, mon pays paternel, la Belgique et la France, avec les pays africains qui fermaient les yeux, je trouve que c'est d'un courage inouï.
Alors, pour qu'on comprenne ce processus de retour à la vie qu'est en train de vivre et de mettre en place le Rwanda, j'ai quand même envie de faire un tout petit retour en arrière, puisque donc vous nous le disiez, Dominique Sely, jusqu'en 2012, les Gacaca sont en place, hein, cette justice traditionnelle participative qui met en place, on va dire, le jugement des génocidaires face aux victimes. J'aimerais qu'on écoute un court extrait de Rwanda, les collines parlent. C'est un documentaire belge de Bernard Belfroy, réalisé en 2006.
Je reconnais avoir tué mon propre frère,
Kanamugire Joseph.
Joseph Kanamugire.
Ubwo namaze kwagera ati uhura mukuru wawe. Ubwo bampaye impiri.
Quand je suis arrivé, on m'a dit tue ton frère.
Bari bafite.
Ils m'ont donné un gourdin, je l'ai frappé deux fois et il est mort. Je ne sais plus comment je l'ai frappé. Moi-même, je n'étais plus un humain.
Il reconnaît avoir tué ton mari. Qu'as-tu à dire ?
Il demande pardon seulement à l'État. Moi, je refuse de lui pardonner s'il ne vient pas en personne présenter ses excuses.
François Karangari. Tu as plaidé coupable. À ta sortie de prison, est-ce que tu es allé voir ta belle-sœur et les orphelins pour leur demander pardon ?
Je lui ai parlé, mais elle ne m'a pas répondu. J'ai préféré attendre quelques jours. Puis je lui ai dit bonjour. Je voulais lui présenter mes excuses et lui expliquer les circonstances du crime. Mais je voyais bien qu'elle ne voulait pas.
Quand je revois comment tu as frappé ton frère, que même une dent a sauté, quoi qu'il arrive, je ne serai jamais apaisée.
Alors, lorsqu'on entend ce genre d'échange entre un génocidaire Tutsi, donc qui semble avoir été
Hutu,
je pense que c'est. Alors, moi, j'ai compris qu'il était Tutsi. Vous comprenez qu'il est Hutu. Moi, je crois avoir compris, mais vous allez me corriger, qu'il a été contraint de tuer son propre frère pour une question de survie. Ça, c'est une question, justement. On entend donc cet échange entre lui et sa belle-sœur. Et la question qui s'est posée à la justice rwandaise, c'est qu'est-ce qu'un survivant dans le cadre du génocide des Tutsis ? Et est-ce que, par exemple, ce meurtrier, s'il est Tutsi lui-même, est un survivant?
Alors, je vais vous dire que ce type d'archive, je me mets tout de suite en mode protection et je ne m'écoute pas vraiment.
D'accord.
J'espère que vous ne m'en voulez pas.
Non, bien sûr.
Donc, un survivant, la définition est simple. C'est génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda, la période de 1990 à 94, 90 à 94. Je vous avoue, je n'ai pas écouté le détail. Mm-hmm. Ça, c'est la définition du survivant. Il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, ce que je voudrais revenir un petit peu en arrière... Gachacha, ce n'est pas seulement les génocidaires qui se présentent devant la collectivité pour rendre compte de ce qu'ils ont fait. Mmh. Ça l'est. Mais c'est aussi les victimes qui, hier, étaient des objets, qui se lèvent et qui peuvent, qui parlent et qui disent ce qui a été fait, qui a été perpétré contre elles, les victimes. Et moi, ça m'intéresse. Parce que finalement, mon questionnement, un de mes questionnements de base, c'est comment fait-on pour être un sujet, pour redevenir un sujet, au sens d'être auteur de son action. Comment fait-on pour redevenir un sujet quand on a été à ce point déshumanisé?
Alors il faut dire que ce travail entrepris par les Gachacha a été méprisé par l'Occident. Et d'ailleurs, depuis 1994, il ne nous aura pas échappé qu'il s'est passé 28 ans. Mais vous notez, Dominique Sélis, que certains médias français sont fixés, on va dire, sur une temporalité qui n'est pas du tout celle du Rwanda. C'est-à-dire ?
Ce que j'observe, c'est que je l'observais à travers les médias français et belges, mais pas seulement. C'est comme si il y avait 94 et on est là aujourd'hui en 2022. Il y a tout un processus qui est oublié ou nié ou négligé. Alors, moi, je me suis questionnée là-dessus. Je me suis questionnée parce qu'au cours de cette promotion de mon roman, je n'ai été que bien accueillie. Il y a une bienveillance, une empathie. Et puis, en plus, dans le cas de la France, il y a ce rapport très particulier des Français à la littérature, la place que ce pays accorde à la littérature.
Donc,
j'en profite. Mais c'est important de le dire parce que s'il n'y avait pas, je ne suis pas en train de faire un passage de brosse à reluire pour dire autre chose. C'est en fait la bienveillance que j'ai reçue qui m'a fait me questionner sur le fait qu'on reste calé sur les massacres. Et avant, vous savez comme moi qu'il y a en France et en Belgique, mais pas seulement, il y a un énorme travail qui a été fait déjà pendant que le génocide était en cours et après, qui est le négationnisme. C'est la définition même du génocide. Ça. Le négationnisme fait partie de l'exorbitant du génocide. Et donc, en amont, il y a tous les discours qui ont été tenus par... François Mitterrand, par ceux qui étaient au pouvoir en France, en Belgique, il y a eu d'autres discours aussi. Les génocidaires qui sont accueillis, qui sont toujours là, même si, je le souligne très fort, en Belgique, il y a eu un sérieux progrès en 10 ans. En France, n'en parlons pas, puisque l'année passée, le président français est venu reconnaître la responsabilité lourde et accablante de la France.
Suite au rapport de la commission Duclair.
Voilà. Et donc, tous ces éléments étant mis, je suis étonnée qu'en fait, on ne souligne pas, qu'on ne voit pas le chemin qui a été fait par le Rwanda. Et je vais ajouter, quitte à horrifier peut-être des auditeurs, que moi, je suis étonnée en fait que, peut-être pas le président de la République, mais que les Rwandais ne soient pas invités à partager de bonnes pratiques. Ce que ce pays a affronté, ce que ce pays a mis en place seul pour se relever, est tout simplement incroyable. Et ce sont des solutions endogène.
Justement,
et on ne nous parle pas de ça.
Est-ce que vous pensez que la lourde responsabilité de la France dans ce génocide des Tutsis joue un rôle dans les inconscients des médias, de certains médias?
Moi, j'ai du mal à me prononcer sur la France, étant donné que je n'ai jamais vécu dans ce pays. D'abord, moi, je me réjouis de l'existence de ce rapport parce qu'il montre, il nous montre à nous les humains qu'il est possible de s'asseoir, de réfléchir ensemble et de produire de l'intelligence. Alors, ce que j'observe, pour revenir plus précisément à votre question, c'est que probablement que c'est une espèce de magma de culpabilité, mais j'ai envie de dire que la culpabilité que moi j'appelle la maladie chrétienne, la culpabilité, ce n'est jamais qu'un rapport à soi. C'est la non-empathie absolue. Moi, j'entends qu'on dit d'une certaine Afrique, de certains racisés dont je fais partie, je l'ai appris récemment parce que je ne vis pas ici. Mais cette culpabilité, c'est ça être victimaire. c'est ne pas m'occuper de toi, c'est me gratter les plaies. Donc, est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas. En tout cas, une chose que moi j'ai envie de dire, puisque vous me le permettez, Yasmine Chouaki, nous sommes, nous les Rwandais, comme tout le monde, parfaitement imparfaits. Nous avons réinventé notre modèle. Et ce modèle, quand il y a des aspects qui ne fonctionnent pas, nous sommes les premiers à devoir subir nos conséquences. Et comme disait Nelson Mandela, nous ne ratons pas, nous apprenons.
Quel est l'objet le plus précieux dont vous êtes en possession?
Ma santé, ma vie, enfin, je ne sais pas si c'est un objet, mais ma vie, mon corps, c'est la même chose.
C'est une réponse de philosophe, ça, déjà. Alors, vous avez fait philosophie, justement, vous avez une agrègue hein, de philo, ouais. Dominique Sélis, Donc pourquoi est-ce que c'est avec un premier roman que vous revenez sur cette question du génocide des Tutsis ?
En fait, je voulais écrire des romans depuis très longtemps, mais je savais que je devrais passer par la case Rwanda, si je peux dire, qui m'habite, qui occupe mon espace mental, mon imaginaire. Il m'a fallu le temps de rassembler mes forces.
Ainsi pleurent nos hommes, donc c'est le titre de ce roman qui paraît chez Philippe Ray, qui dit déjà beaucoup, hein, ce titre, on y reviendra, où l'on découvre un dispositif amoureux dans un contexte post-génocide, avec une certaine Erika qui écrit de longues lettres à sa sœur, et qui, page 14, dit par exemple « Supporter de revivre ici, au Rwanda, c'est revenir à soi et se réconcilier avec soi-même ». On fera l'économie de la question de savoir si c'est votre alter ego, Dominique Sélis. En tout cas, Erika est traumatisée, on l'apprend dès les premières pages, par la mise à mort et l'agonie de quatre de ses tantes. Donc il y a déjà un tremblement de terre dans son corps. Et en même temps, c'est une héroïne. C'est une héroïne qui est encore une jeune femme et qui incarne les forces vives de la nation. Est-ce que c'est important d'avoir choisi pour héroïne ce type de profil ?
Oui, parce que je ne sais pas si je dirais que Erika est traumatisée. Je dirais que la question du génocide, et je rappelle que je parle d'un point de vue de personne qui n'est pas survivante, j'insiste. La question du génocide...
Mais là, on parle d'un personnage de fiction. Ça, vous êtes l'auteur, mais Erika...
Oui, mais
c'est...
comment est-ce que j'ai fabriqué mon...
Et voilà.
Comment est-ce que j'ai fabriqué mon personnage ? Quand je la fabrique, les habits dont je la pars, ce n'est pas tant ceux du trauma, mais la question du génocide en tant que déshumanisation, ça vient entamer l'être. Alors, ce n'est pas un subtil distinguo de philosophe, c'est que vous pouvez avoir un trauma. Je vais prendre l'exemple sur moi, à propos de mon père, comme il est mort, je ne risque pas de dire des bêtises. Imaginons que mon père ait été renversé par une voiture, par un chauffard. C'est un chagrin de perdre son père, mais on peut recréer du sens. Je peux militer contre l'alcool au volant, je peux mettre des actions en place. La question que le génocide pose, c'est le non-sens absolu. Et donc le non-sens absolu qui fait qu'on ne peut pas donner sens à quelque chose qui n'a pas de sens, il n'y a rien en fait qui vous retienne à la vie. Donc il y a cette espèce de crainte de l'effondrement. Avoir eu des tantes assassinées et assassinées de cette manière-là, dans le cas d'Erika, comment je me fais humain avec ce vécu-là qui m'habite mais qui n'est pas le mien ?
C'est un roman qui grouille de récits macabres, de sémantiques qui marchent un peu sur des œufs entre rescapés, génocidaires, avant ou après le génocide. De meilleurs amis ou d'anciens domestiques devenus génocidaires et croisés dans la vie normale, de maman colonel, de Rumba, de Waladji, de Diaspouri. Et puis Erika qui tente donc de s'entourer de ce qu'elle appelle une famille de substitution qui tombe follement amoureuse, même avec en tête le vagin éclaté des tatas. Elle tombe amoureuse de Vincent, un rescapé qui a un comportement de fuite. Erika s'explique à un moment donné de votre roman, Dominique Sélis, avec James, qui est un frère adoptif proche de Vincent.
James, être vulnérable, c'est pas un vice, une perversion. C'est la condition humaine, non? Il a ri, badigeonné de piment sa viande. Toi, t'es vraiment la fille d'un Muganga Muzungu. Une espèce gavée de paix depuis 3 générations. Fais pas ta conne, Erika. Être vulnérable, c'est être un chien. Aimer, t'as déjà envisagé? Ça peut aider à se sentir vivant. Il a dégluti. Quelque chose m'a inquiété. Je sais pas. Sa façon de mordiller la lèvre inférieure, de se frotter la bouche, de lisser les pinces impeccables de son pantalon en toile beige. Erika, je t'aime fort, tu le sais, t'es au courant? Non. On a ri. Ses yeux bruns étaient dilatés. Je l'ai scruté. Erika Umva, écoute, Vincent, mes frangins et moi, pour ne parler que de la famille restreinte, on est comme ton frère, mort.
Alors il me semble, Dominique Sélis, toujours pour en sol majeur, que ça c'est un des grands thèmes de votre roman « Ainsi pleurent nos hommes ». Vous parliez de la reconquête du sens pour les êtres humains qui peuplent ce Rwanda après le génocide. Il y a la question de la vulnérabilité des hommes.
Grande question. La vulnérabilité des hommes, alors vous voyez le titre. Il y a un proverbe rwandais qui dit « Les larmes d'un homme coulent à l'intérieur. » Ça coule dans le ventre. Et donc c'est une prescription de bravoure, de virilité faite aux hommes de contenir leurs émotions, puisque le rôle des hommes, je pense en général, en tout cas très fort dans la culture rwandaise, qui est une culture martiale de la dignité, le rôle des hommes est de protéger les femmes, les mères, les sœurs, etc., de pourvoir et de protéger. Or, le génocide des Tutsis a empêché ces hommes de sauver les leurs, de les protéger. Et c'est ça que je veux montrer par la question de la vulnérabilité, c'est la question d'avoir failli à un rôle qui est attribué socialement. Et je rappelle que les sociétés africaines ne sont pas définies anthropologiquement de la même façon que les sociétés occidentales. Société africaine, c'est le nous, avec des rôles bien fixés.
La complexité de ce personnage, Vincent, dont est amoureuse Erika, sa complexité, c'est d'être à la fois martyr, il est mort à l'intérieur, et survivant.
Oui. Pour moi, je ne dirais pas... je n'aime pas le terme martyr. Je ne sais pas qui l'aime d'ailleurs, mais Vincent a été au front, il a combattu, mais la grande difficulté de ce personnage, c'est que son vécu de rescapé, son vécu d'avoir été au front et d'être arrivé trop tard au pays pour sauver les Tutsis et sa famille, l'incapacité d'avoir pu faire ça, en fait un personnage qui est brisé et désormais incapable d'aimer parce qu'il est face à la peur de... Aimer, c'est perdre, et perdre, c'est mourir. Donc, comment négocier cette équation? Et l'histoire avec Erika, j'ai voulu montrer... bien sûr, c'est une histoire d'amour, mais c'est aussi que l'amour n'est pas suffisant. Parce que comment on fait? Une histoire d'amour demande d'aller au plus profond de soi, quelle que soit la définition qu'on donne les uns et les autres de l'amour. Et ce personnage de Vincent, comme un certain nombre de personnages masculins de ce livre, n'arrive plus à s'exposer parce qu'ils sont trop blessés.
En tout cas, le corps est au centre de ce roman. Vous déployez ce fameux corps dans toute son horreur et dans toute sa survie en même temps. J'ai relevé une phrase, par exemple, l'un des personnages, Julie, voulait que Vincent la prenne avec son fusil d'assaut. C'est-à-dire le sexe et la guerre dans le même lit.
Oui. En fait... Quand j'ai voulu écrire cette histoire, c'était pour moi très difficile d'écrire quelque chose en lien avec le génocide des Tutsis. Et en fait, il n'y a pas de trace pour un génocide. Qu'est-ce qui nous reste à la fin? Si je prends le personnage d'Erika, qui n'est pas là quand une partie de sa famille se fait exterminer, ses tantes, les 4 tantes dont elle parle, qui ont été exterminées et qui ont été torturées par le viol. Il n'y a pas de trace de ce viol. Il n'y a pas de trace de cette déshumanisation. Il n'empêche que le personnage d'Erika doit vivre avec cela, et il se fait aussi que c'est une femme, et que la représentation, l'appropriation de cette question du viol peut se faire de façon plus précise. Et donc, oui, moi, je reviens au corps, parce que c'est ce qui reste quand les autres ont été tués. Qu'est-ce qui reste ?
Il n'y a pas de trace, dites-vous, oui. Dominique Sélis. Et en même temps, vous faites un parallèle, je trouve, saisissant entre ce Rwanda d'hier, gisant sous des monceaux de crânes et des litres d'hémoglobine, pardon pour l'image, et le Rwanda d'aujourd'hui, présenté comme le pays le plus propre d'Afrique de l'Ouest.
Ah, j'aime bien que vous dites ça. Oui, le Rwanda est un pays extrêmement propre. En amont, c'est aussi lié à la culture de ce pays, qui est une culture de la dignité de soi, que nous on appelle agaciro. Donc la question de la propreté, d'une façon générale, a une importance en tant qu'elle reflète la dignité que je m'accorde. Alors ici, oui, moi je fais un lien à un certain moment. Mais ce que je veux montrer aussi, c'est que cette façon d'être propre, c'est un des chemins que nous avons empruntés pour restaurer notre dignité. Mmh. Et je fais une extension, parce que depuis 6-7 semaines que je suis en Europe, 3-4 fois, il m'a été dit, mais en fait, qu'est-ce que les Rwandais cachent derrière tant de propreté ? C'est une question qui m'a été posée 3-4 fois. Ici, quand je l'ai relevé auprès d'amis, on m'a dit, ben oui, ça pose question. C'est une question, moi, qui me bouleverse. Elle me bouleverse parce que, souvent, dans les retours que je peux lire sur le Rwanda, c'est comme si on cache des choses. C'est comme si... Mais, enfin, on ne cache rien. Il n'y a même pas besoin de visa pour aller au Rwanda. Le visa se prend on arrival. Donc, tout le monde peut... Venez voir, on ne cache rien. Le Rwanda, c'est l'histoire d'un...
Mais en même temps, il y a des personnages qui disent « Bon, ben, il faut tourner la page, ça existe hein, aussi. C'est que faire hein, de ce passé si lourd ? Est-ce qu'on peut l'effacer ? Est-ce qu'on peut l'effacer ?»
Alors, il y a des personnages qui disent ça. Dans le roman, il y a un personnage qui dit cela. C'est un ami proche d'Erika, qui est un Belge. Mais la page qu'on nous dit qu'il faut tourner. Mais cette page n'existe même pas, on l'a arrachée. Qu'est-ce qu'il était écrit sur cette page ? Sur cette page, il était écrit nos familles, les gens qu'on aimait.
Mais il y a la question de la réconciliation. On n'a pas encore prononcé ce mot, mais oui. C'est un mot qui est il y a un ouvrage très très profond, très souterrain qui se fait entre les bourreaux, les anciens bourreaux et les anciennes victimes, si on peut le formuler comme ça. Comment cohabiter ensemble ? Les descendants même de victimes et de bourreaux ont quelle solution pour vivre ensemble ?
Eh bien, il n'y a pas de solution parce que nous, les Rwandais, nous avons décidé de rester ensemble. Et le personnage d'Erika, au travers des lettres, ce qu'elle nous montre, c'est la difficulté de s'approprier du projet d'unité de réconciliation. Alors, le terme utilisé est réconciliation. Le contenu, c'est plus le vivre ensemble. Parce que réconciliation, c'est la connotation.
Comment on dit en Kinyarwanda ?
On le dit en français, réconciliation. Donc, ce projet existe, il est difficile, il nous fait violence, mais nous le voulons. Nous voulons vivre ensemble, nous voulons cette aventure collective. Et pour pouvoir la soutenir, pour pouvoir avancer, nous avons mis en place des dispositifs, enfin, l'État a mis en place des dispositifs que nous nous sommes appropriés. Et au Rwanda, les dispositifs, c'est quoi, pour être clair ? Ce sont des espaces de dialogue, ce sont les commémorations qui durent un trimestre. C'est l'éducation permanente, en fait. Kigali, samedi 13 octobre 2018. Un trimestre plus tard, Vincent me manque. Vincent, Laurencia, je t'aime tous les jours pour toujours. Occuper le temps a occupé le vide. Avec Manzi, il suffisait d'habiter l'instant, de baiser, de déployer sa puissance phallique, émasculée par son impuissance à sauver les siens. Ça m'agrée d'insuffler la vie par le sexe à nos corps caveaux pour nous réhabiliter sujets et nous incarner dans nos chairs, fouler les parasites du devoir-être, les discours névrosés à raisonner au pardon pour ceux advenus au monde par nos mères domiciliées dans des cercueils. c'est un apprentissage sensoriel, technique respiratoire et conjugaison au présent de l'indicatif.
Merci pour cet extrait de « Ainsi pleurent nos hommes », Dominique Sélis. Il faut le dire maintenant en sol majeur. Pourquoi avez-vous choisi la forme épistolaire pour écrire ce roman ?
J'ai choisi la forme épistolaire parce que je présentais un personnage principal, Erika, qui rentre et qui est dans un tâtonnement. Et je voulais que ce personnage s'autorise à pouvoir dire une chose et son contraire, puisque justement, elle essaie de s'approprier ce projet auquel elle adhère, de prendre sur soi, pour, au nom de la collectivité. C'est-à-dire un moment de pouvoir contenir mon émotion à partir du moment où cette émotion n'apporte rien à la collectivité.
Est-ce que le Kinyarwanda permet de dire notamment le crime de façon différente par rapport au français ? Vous avez relevé, par exemple, on peut relever dans ce roman une expression qui dit « obéir de son propre chef ». Ça, c'est vraiment
français.
Complètement français. Est-ce que cette même expression peut être dite en Kinyarwanda ?
Je ne pense pas, il faudrait vérifier. Moi, je ne parle pas le Kinyarwanda, si ce n'est pour les besoins de la vie sociale. Je ne suis pas capable de vous répondre à ça quant au Kinyarwanda.
Mais la question de la langue est évidemment importante. Hein. Elle circule même dans le dialogue entre vos personnages. Vincent, lui, ne trouve pas toujours les mots, justement, pour le dire. Et il a cette phrase, page 78, il dit « Et le français est une langue sale ».
Oui. La référence à laquelle Vincent renvoie à la colonisation, à cette langue de la violence, à cette langue du mépris telle qu'elle a été utilisée dans ce contexte. Et oui, elle est sale, parce que cette langue française, elle a beaucoup de nuances pour dire le crime, pour dire le viol, pour dire toutes ces nuances-là.
Et quel est votre rapport, vous, alors à cette langue, qui est votre langue d'écriture ?
Cette langue de mon père, c'est la langue dans laquelle j'ai grandi. C'est donc ma langue, c'est la langue dans laquelle je pense.
Est-ce que vous avez encore du souffle derrière le poste, les auditeurs ? Parce que je me dis qu'un petit peu de Maurice Merleau-Ponty dans votre En sol majeur, ce serait pas mal, ça ne mangerait pas de pain. En 1959, un certain Georges Charbonnier lui posait une question qu'apparemment un non-philosophe ne peut s'empêcher de poser à un philosophe, à savoir, est-ce que le philosophe peut répondre par oui ou par non ?
Je pense que, assurément pas. Assurément pas en tant que philosophe. En d'autres termes, je pense que le philosophe n'est pas manichéen. Il n'y a pas de philosophe manichéen. Ou alors, s'il y a des philosophes manichéens, ils sont non seulement manichéens, mais diaboliques. C'est-à-dire que ils admettent que, d'une certaine façon, le oui et le non s'équivalent. Et que les adversaires sont frères et que quelqu'un qui lutte absolument contre quelqu'un, par là même, s'identifie à ce quelqu'un. Alors, en ce sens-là, oui. Mais autrement, je ne connais pas de philosophe manichéen. Je veux dire que ce qui définit évidemment le philosophe, c'est toujours l'idée que l'on peut comprendre l'autre, qu'on peut comprendre l'adversaire. La philosophie ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas chez les philosophes cette intention, non pas seulement de se poser, mais de comprendre ce qui n'est pas eux, et de comprendre au besoin ce qui les contredit. Enfin, ça, c'est professionnel chez le philosophe. Enfin, un des grands problèmes que les philosophes se posent est de savoir comment on peut n'être pas philosophe, comment on peut vivre dans l'ignorance de la réflexion. Par conséquent, ici, ils s'efforcent de comprendre même l'anti-philosophe ou le non-philosophe qu'ils voient autour d'eux.
Le oui et le non s'équivalent, c'est ce que nous dit Maurice Merleau-Ponty, qui a été important, hein, je pense, dans votre parcours philosophique à vous, Dominique Sélis. Que vous inspire cette réflexion ?
Assurément, être dans le oui ou le non, c'est une insulte à la pensée. C'est comme le tout et le rien. Si je vous dis j'aime toutes les cuisines, je n'en aime aucune, je n'aime rien. Oui, le chemin, c'est la nuance. Le chemin, c'est la nuance et la rigueur. Et c'est la négociation en permanence avec moi. Moi, je ne parle pas moi, Dominique, un jeu qui me constitue et l'autre qui est devant moi. Mais surtout, ce que moi j'aime chez Merleau-Ponty, c'est comment il apporte la question des conditions de possibilité qui font que je vais expérimenter quelque chose. C'est ça que met le oui et le non, assurément.
La poésie est-elle possible après Auschwitz ? La question a été maintes fois posée. Est-ce qu'après le génocide des Tutsis au Rwanda, cette question vous intéresse ?
La question m'intéresse plus globalement que la poésie. D'abord, oui, la poésie est possible. Je pense que la seule réponse après un génocide, c'est créer.
Créer ?
Voilà, c'est créer, transformer. Et d'ailleurs, sur Aki au Rwanda, on peut. Il y a quelque chose vraiment qui est en train de bouillonner, notamment sur la scène de la mode, la musique. L'écrit, c'est encore différent parce qu'on est dans trois langues là. Mais il y a vraiment un bouillonnement au niveau du cinéma. Il y a de très belles choses qui se passent. Je pense que la réponse, c'est créer, oui.
Donc plus l'art que la philosophie.
L'art et la philosophie sont quand même dans une étreinte étroite. Non, pas plus que la philosophie. Non, parce que la lecture du projet politique, pour moi, c'est une philosophie politique. Avoir décidé, je ne vais pas faire donner une leçon, mais avoir décidé de reconstruire le pays en s'appuyant sur la culture avant colonisation, c'est une démarche éminemment philosophique, puisqu'elle pose les conditions, c'est de se demander qu'est-ce qui est possible, quelles sont les conditions pour se remettre debout, et avoir décidé de repartir des fondamentaux rwandais en termes de pensée, d'esthétique, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais il y a toute une esthétique, notamment de l'amour, en s'appuyant sur ce qui existait avant la colonisation, c'est éminemment philosophique.
Menthe, paprika, fraises des bois. Quelles sont les odeurs de votre enfance?
Les odeurs de mon enfance.
Vous qui avez eu de multiples géographies. Hein. Vous êtes né au Burundi, et puis il y a eu le Congo, il y a eu l'Équateur, il y a eu le Rwanda jusqu'en 80, puis le Congo, le Bazaïre, Kinshasa, la Belgique.
Oui, les odeurs, c'est les odeurs de la terre mouillée, de l'humidité, les odeurs de marché, les odeurs des corps, des gens, de la nourriture aussi. Les odeurs.
Ça vous laisse sans voix, ça.
Oui, c'est aussi les odeurs des plantes, ouais. Des plantes, des fleurs en nocturne. Ouais. Les odeurs de la nature, des gens.
C'est joli.
Oui.
Très différentes, d'ailleurs, quand on est soit au Congo, soit au Rwanda.
Oui, ce n'est pas la même chose. Ce ne sont pas les mêmes odeurs. Ce ne sont pas les mêmes odeurs. Et j'aime toutes ces odeurs.
Et la nature,
la
des gens.
Oui, très différente. Oui, oui, tout à fait.
On est dans l'humilité, dans la discrétion, j'ai l'impression, au Rwanda, alors qu'au Congo, vous parlez d'explosion.
Au Rwanda, on est dans la retenue, c'est une culture de la pudeur, on est dans la retenue, mais j'aime aussi cette exubérance congolaise, j'aime beaucoup ça aussi.
Qui était le tuteur ou la tutrice de l'identité à la maison? Qui vous a transmis l'identité? La question, cette question-là?
Ben moi, j'ai au moins une double... Non, je n'ai pas une double identité, je ne suis pas schizophrène, j'ai une identité, plusieurs cultures, mais chacun, le père comme la mère, chacun a transmis sa part de façon différente. Ma mère, c'est plus par la musique et les histoires.
Maman rwandaise?
Maman rwandaise, oui. Bah, chacun a transmis, avec, dans le cadre du père, que nous avons fait des études privées en Afrique et qui étaient des écoles privées à programme belge. J'ai fait ma première et ma terminale en Belgique et puis l'université. Et quand je suis arrivée en première, j'ai rencontré des Africains, des Noirs, des Métis, aussi des Nord-Africains qui n'étaient pas très fiers de leur pays, etc. Mais moi, j'ai toujours su que le Rwanda était un grand pays, avec une culture forte, puissante, parce que la mère a transmis. Je ne sais pas comment, mais elle a donné.
Et le père, il a transmis aussi, papa belge.
Oui, bien sûr, oui, il a transmis. Et c'est, chez nous, ce n'était pas tellement des questions, ça. C'est, comme on dit en belge, ça a été là. C'était là, voilà, c'était pas... Ils ont transmis ce qu'ils avaient, ce qu'ils étaient.
Alors la question aujourd'hui de la maison, c'est, ça se pose comment? C'est où la maison pour vous?
La maison, c'est l'œil à ma machine à laver.
C'est une réponse extraordinaire que j'avais jamais entendue encore.
C'est là où il y a ma machine à laver.
C'est pas très Me Too, ça. Hein.
Mais j'ai bien dit ma machine à laver. Je n'ai pas dit la machine à laver d'un monsieur. Ça veut dire que quand je dis ma machine à laver,
vous êtes redoutable en rhétorique.
Yasmine Chouaki, c'est la machine à laver que j'ai achetée avec mes sous, gagnée à la sueur de mon front.
Donc, l'indépendance féminine et tout. Ouais.
Quand je dis la maison, c'est là où il y a ma machine à laver, c'est là où il y a mes affaires, c'est là où j'habite. C'est ce que je, quand on met adresse, c'est mon adresse.
Merci Dominique Célis de nous avoir fait cogiter et voyager. D'ailleurs, vos oreilles sont capables d'aller, je crois savoir, très très loin, jusqu'à Oum Kalsoum. Et là, je sais qu'il y a des gens, des auditeurs, des gens que vous croisez sans doute dans la vie qui vous le disent ou ne vous le disent pas, mais vous le lisez dans leurs yeux. Mais comment elle fait pour aimer Oum Kalsoum? Son oreille n'a pas été éduquée dans cette culture-là.
Non, pas du tout. J'ai eu, moi qui suis une athée pratiquante, j'ai eu la grâce de découvrir Oum Kalsoum parce que j'ai eu un voisin quand j'étais étudiante qui écoutait ça. Et un jour, et on se croisait sur le trottoir, et un jour je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu écoutes, c'est tellement beau. Et à l'époque on avait des cassettes, il m'a fait une cassette, et c'est comme ça que j'ai écouté Oum Kalsoum, et que j'ai cherché par moi-même, et que quand je rencontrais des arabophones, je disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait toujours quelqu'un qui me disait, mais ça c'est l'arabe classique, je ne connais pas. Et donc moi je ne cherche plus à comprendre Oum Kalsoum, mais... Je l'adore, c'est une madame que j'écoute particulièrement le matin et c'est une joie renouvelée.
Générique de cet en sol majeur, Habibi, un peu de Maurice Merleau-Ponty, beaucoup de Mille Collines avec Ainsi pleurent nos hommes de Dominique Célis, paru donc chez Philippe Ray. Tout ça à retrouver en podcast Yahouya, bien sur Pure Radio. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures en sol majeur.